faut arrêter la machine. Faut arrêter la machine. Sinon.
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
Quatrième émission de la série consacrée au service public dans le cadre de la résidence de Nicolas Frise sur Radio Grenouille, dans le projet Grenouille. Cette quatrième émission va être plutôt politique. Il nous semblait intéressant d'avoir les points de vue des principaux courants politiques sur l'évolution et l'avenir des services publics en France. On va donc passer une heure à débattre de cette question des services publics. Je suis en compagnie de Marie-Françoise Palois, qui est membre du Parti communiste. Elle s'occupe à la direction nationale de la question des services publics et de la fonction publique. Et elle est aussi conseillère municipale à Marseille. Monsieur Georges Gross est, lui, du Parti socialiste. Il est délégué fédéral, préposé au service public. Il est secrétaire de section du 14e arrondissement et il est retraité de La Poste. Et un ancien syndicaliste aussi, FO Poste. Monsieur Richard Miron, lui, représente l'UMP. Il est conseiller général, que canton de la Pointe Rouge, et conseiller d'arrondissement de la mairie 6-8. Et enfin, Charles Villeneuve, il est porte-parole nationale de Génération Écologie et il est directeur de recherche au CNRS. Pour commencer, je voulais que vous nous donniez chacun une réponse sur si je vous dis service public, vous pensez à quoi ? Marie-Françoise Palois.
Si vous dites service public, moi je pense surtout à la démocratie, bien entendu, et à l'égalité et à la justice. Égalité d'accès des citoyens, égalité de traitement des citoyens, et justice qui va jusqu'à la justice fiscale, bien entendu. J'ai oublié de vous dire que je travaillais aussi, je suis salariée du ministère des Finances, donc au plus haut point concernée par les services publics. Pour moi, les services publics, ce sont des grandes réformes. Vous savez, il y a encore quelques temps, on nous disait « les Français n'aiment pas les réformes ». Et pourtant, il y a eu des réformes. La réforme de la sécurité sociale, par exemple. Des grandes réformes qui ont permis à la France d'avoir les services publics qu'on a aujourd'hui. Mais qui sortent tous de grands conflits aussi. Justement, parce que ça n'a pas été gagné comme ça, en levant la main, on veut une sécurité sociale. Il y a eu de grands conflits. Et effectivement, quand on voit les services publics aujourd'hui mis à mal, eh bien, je serais tentée de dire, ça crève le cœur, quoi. Parce qu'on en a vraiment besoin. La France et les Français et les Françaises ont vraiment besoin de services publics.
Monsieur Miron, pour l'UMP, quand je vous dis services publics.
Bonjour d'abord.
Bonjour, oui, pardon.
Oui, les services publics, pour moi, c'est d'abord servir, hein, rendre service au public dans un certain nombre de domaines qui sont de l'intérêt général avant tout et qui peuvent difficilement être rentables. Ça ne veut pas dire pour ça, en tout cas de mon point de vue, et puis comme ça on rentre tout de suite dans le débat, que ces services doivent être confiés exclusivement à la tutelle, qu'elle soit de l'État ou qu'elle soit des collectivités locales. Ça peut être très bien attribué à la fonction, peut être très bien attribué à une entreprise privée. En ce qui me concerne, eh bien, je n'y vois aucun inconvénient, bien que des avantages.
Monsieur Gross, pour le PS.
Oui, donc moi je reprends. Donc que veut dire le service public ? Le service public, donc, il faut rappeler que le service public, ça demeure quand même un des piliers fondamentaux du modèle économique et social auquel la France reste très attachée. Et ça fait partie du socle du pacte républicain. Je crois que l'ensemble des biens publics est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine, au développement harmonieux de la société. Donc il y a donc les services marchands et les services non marchands.
Monsieur Villeneuve, Génération Écologie.
Alors, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, malheureusement, je ne m'appelle pas Charles Villeneuve, j'aurais bien aimé, mais je m'appelle Michel Villeneuve. Donc,
ah, pardon.
C'est juste une petite erreur, mais
oui.
J'aurais préféré m'appeler Charles, hein, il est plus connu que moi. Voilà. Ensuite, si vous voulez, bon, je suis très heureux d'être invité parce que je représente évidemment l'écologie et on a tendance à penser que l'écologie, ça se limite aux petits oiseaux, et, enfin, aux fleurs et autres. Hein. Je pense que c'est totalement faux. De toute façon, il y a un système libéral, un système socialiste et il y a un système écologique qui sont tous les trois, disons, à la volonté de gérer un petit peu notre univers. Sauf que l'écologie prend en compte l'ensemble de la Terre et ce que ne font pas exactement les autres. Voilà. Donc là-dedans, pour en venir au débat d'aujourd'hui, le service public, nous, on a une vision relativement simple des services publics. D'abord, il y a les fonctions régaliennes de l'État, qui aujourd'hui doivent être forcément publiques, c'est-à-dire la justice, l'administration, l'armée, les impôts, etc., qui d'ailleurs n'ont pas toujours été publiques. Hein. Sous la royauté, aussi bien l'armée, elles étaient louées, les impôts étaient des charges privées, etc. Donc ça a été quand même des luttes après la Révolution qui nous ont permis de faire en sorte que les fonctions régaliennes soient vraiment des fonctions publiques. Ensuite, il y a des fonctions que doit assumer l'État pour le public. Moi, j'en vois deux. Je vois d'abord celles qui sont stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a une vision stratégique de l'avenir et donc il doit garder ses fonctions. Et là-dedans, il y a les transports, il y a les communications, il y a l'énergie. Tout simplement parce que si demain on déléguait ça à une puissance privée qui soit multinationale, dont le siège est par exemple dans un pays ennemi, en cas de conflit, il est évident que... Je prends un exemple très simple. Par exemple, au moment de la guerre du Golfe, nous avons été privés du GPS, nous avons été privés de la vision des images de Landsat, tout simplement parce que voilà. Alors, on ne peut pas priver un État, ni même un groupe d'États, d'une certaine fonction, parce que celles-là sont stratégiques. Et puis ensuite, il y a les fonctions qui sont, je dirais, économiques et non stratégiques. Ça peut être la fabrication des voitures, ça peut être la fabrication des casseroles, ça peut être tout ce que vous voulez, qui, elle, à mon avis, ne nécessite pas une intervention de l'État absolue. Elle peut aider quand ça va mal, mais l'État n'est pas obligé de s'investir là-dedans. Voilà. Donc, si j'en reviens aux deux fonctions sur lesquelles l'État ne doit pas lâcher prise, c'est essentiellement les fonctions régaliennes, ça c'est clair, bien qu'aujourd'hui on ait tendance, même celles-là, à les lâcher. La deuxième, ce sont les fonctions stratégiques, et les communications, l'énergie et autres, on a aussi tendance à les privatiser. Et puis les fonctions que l'on peut privatiser parce que ça n'a pas de conséquences sur la vie des gens et que ça peut dégager l'État et lui permettre de se focaliser sur les fonctions qui sont vraiment les siennes.
Voilà. Ce qu'on peut retenir de ce que vous dites, c'est que derrière cette notion de service public, il y a une certaine conception de l'État. Alors soit qui est en retrait, soit qui est en expansion, interventionniste, mais est-ce qu'il n'y a pas ce débat-là derrière le débat qui concerne les services publics?
Il y est forcément. Hein.
C'est... Moi, sur l'État, on dit trop d'État, peu d'État, etc. Moi, je crois que l'État doit être à sa place parce que c'est quand même un régulateur de cohésion sociale et que donc les services publics sont par là même aussi facteurs de solidarité, de cohésion sociale. Il y a un adage qui dit « Dis-moi, quelle est ta conception du service public, je te dirai quelle société tu veux. » Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Bon, alors après, l'État, c'est un pouvoir aussi. Mais l'État, ce sont aussi des fonctionnaires. Et les fonctionnaires sont indépendants de tout pouvoir politique, normalement, avec garant de leur statut. Hein. Ça veut dire aussi qu'ils ont des droits et qu'ils ont des devoirs. Et ces devoirs, c'est surtout et avant tout, à mon avis, c'est justement dans le cadre de ce que nous vivons aujourd'hui concrètement dans cette société, de faire en sorte de pouvoir réguler à la fois ce qui est le tout marchand et à la fois les services publics. Voilà. Alors, pour moi, un service public, c'est un service de proximité. Regardez aujourd'hui sur les journaux de quoi on parle. On parle des hôpitaux et on parle de 113 unités de soins qui doivent disparaître, hein, et y compris des blocs opératoires qui doivent disparaître. Par exemple, chez nous, ça serait le bloc opératoire de la Ciotat. Bien entendu, ce sont des blocs opératoires qui se trouvent dans les campagnes, isolés, enfin. Hein, bon. Moi, je trouve que ça, c'est un peu comme quand on ferme un bureau de poste. C'est encore plus grave, bien entendu, parce que c'est la santé qui est touchée, comme les maternités qui ont fermé leurs portes. Quand on ferme une perception aussi, c'est y compris le maire qui est à côté de sa perception et qui a un comptable public qui est là à sa disposition, qui souffre. C'est l'école qui souffre, c'est tout ça. C'est la vie de la nation, c'est la vie des citoyens qu'on met en péril, c'est-à-dire où on désertifie complètement les zones rurales, il faut le dire, mais même y compris dans les zones urbaines, on arrive à trouver cette fermeture de services publics. Alors après, c'est vrai, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est sur les grands sujets tels que l'énergie, l'eau, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est la garantie de notre indépendance.
Vous avez fait référence tout à l'heure à un positionnement politique. Je crois qu'il faut aller un peu le chercher au-dessus encore. C'est un positionnement idéologique, c'est une vision du monde différente. Il y a, depuis la Révolution, à la fois les centralisateurs et les décentralisateurs. C'est notre histoire, elle est dans nos gènes. Partant de là, eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que, par rapport à ces visions du monde différentes, et ici, vous avez un panel représentant quatre tendances bien différentes, eh bien, il y a, pour ma part, une nécessité à ce que l'État s'occupe de ses affaires. Alors, et ses affaires, c'est quoi? C'est effectivement ce qui est du domaine régalien. Alors, après, c'est qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur du domaine régalien? Moi, quand j'entends l'armée, bien évidemment, quand j'entends la justice, bien évidemment, jusqu'où on va, quoi, hein? Est-ce que dans le domaine régalien de l'État, on faisait référence à l'énergie, jusqu'à quelle limite? En ce qui me concerne, ça ne fait pas forcément partie du domaine régalien absolu de l'État. On parle des transports, les transports publics de passagers, que l'État ait un rôle pour qu'une meilleure circulation dans le pays entre les gens, oui, ce n'est pas à lui de faire. On pourrait le prendre au plan local ou au plan régional ou départemental, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut absolument que la puissance publique, avec les contraintes que ça engendre. Hein, tout à l'heure, je crois que c'est Marie-Françoise Palois qui faisait référence aux fonctionnaires. J'ai été fonctionnaire dans le passé. Aujourd'hui, je fais autre chose. Et d'autres, certainement, font aussi des tas de choses dans leur vie. Et c'est tant mieux. Sachez simplement que lorsqu'on embauche un fonctionnaire, on en prend pour 60 ans. 60 ans de salaire et de cotisation, et également aussi de retraite. Donc, moi, j'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde les chiffres. Tout simplement, hein, parce que derrière ces chiffres, il y a un certain nombre d'individus, il y a des familles qui vivent, et que ben, quand on s'engage auprès d'un certain nombre de familles, ben, il me semble qu'on ne peut pas leur vendre tout et n'importe quoi. Et puis, depuis des années et des années, eh bien, on s'est aperçu que en fonction de qui était au pouvoir, il y avait plus ou moins d'embauches de fonctionnaires, et qu'ensuite, derrière, eh bien, on se retrouvait, sous prétexte, bien évidemment, de services publics, toujours, et d'intérêt général, bien évidemment. Et puis, on se retrouve ensuite avec à gérer et un certain nombre de déficits chroniques et là quels que soient les gouvernements en place. Donc je crois qu'il y a une vraie vision du monde différente et aussi qui s'appuie sur on est obligé de tenir compte des finances du pays de façon globale. Et partant de là, eh bien, on regarde ce qui nous semble, en tout cas ce qui me semble être du domaine absolument régalien de l'État, sécurité, justice, je faisais référence tout à l'heure, et ce qui peut être, passez-moi l'expression, mais en tout cas moi elle me convient, sous-traité.
Monsieur Gross, pour le Parti Socialiste.
Enfin moi je voudrais répondre, il y a un propos qui me gêne donc de la part de mon collègue donc de l'UMP, parce que j'entends positionnement idéologique. Moi je voudrais revenir quand même. Donc tout à l'heure, je vous ai dit donc, que ça appartenait, le service public, la fonction publique, surtout d'État et maintenant territorial aussi, ça appartient au socle du pacte républicain. Alors donc, il faut savoir, lorsqu'on parle de la République, on parle de quoi? Parce que pour moi, donc, la fonction publique, c'est vraiment la République. Et je voudrais revenir aussi, sans polémiquer, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous disiez 60 ans de salaire. Donc je veux, je sais qu'on est passé maintenant à 42 annuités, mais je veux dire 60 ans de salaire, je ne pense pas quand même qu'on va arriver à ce que les gens travaillent 60 ans, donc je me permets donc de vous le rappeler.
Yeah, mais l'État finance aussi les retraites, quoi, des fonctionnaires. Voilà, c'est pour ça que je dis 60 ans, compte tenu de la durée de vie de chaque individu.
Alors, en tout cas, il y a eu récemment un rapport qui a été rédigé par un monsieur qui s'appelle Alain Mariotti du Conseil économique et social et qui préconise de passer des services publics aux services au public. c'est-à-dire d'une conception organique des services publics à une conception fonctionnelle. Comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et monsieur,
je pense que déjà,
Madame Pallois,
le service au public, ça veut dire ça veut dire quelque chose de beaucoup plus concurrentiel. Pour nous, il n'y a pas photo entre un service public ou justement ce que je disais en préambule, c'est-à-dire l'égalité d'accès des citoyens. Et puis ensuite, donc, allez, on fait passer à la concurrence, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Et y compris qu'on fait rentrer aussi des critères de gestion privée dans les services publics. Et ça, c'est catastrophique quand on parle de solidarité, d'égalité et ce qui était le propre. Je veux bien idéologie, moi je serais plus tentée de dire pour le bien commun, quoi. Hein. C'est la propriété publique. Les services publics, il faut savoir quand même que c'est la propriété de chacun. Donc moi je veux bien qu'on prenne des décisions à la place des citoyens, mais nous ce qu'on voudrait, au Parti communiste en tous les cas on se bat pour ça, pour que donner des droits et des devoirs, y compris aux citoyens, pour avoir un regard beaucoup plus ferme et pouvoir intervenir dans la gestion des services publics. Aujourd'hui c'est pas ça, donc démocratie peut-être, mais en tous les cas, en tous les cas, pas de démocratie totale.
Monsieur Villeneuve, vous vouliez
j'ai le dossier dans ma sacoche, là, donc je l'ai lu. Bon, j'ai trouvé que c'est un bon mot. Bon jeu de mots, disons, allez.
De passer du service public au public.
Oui, parce que, bon, ceci dit, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des fonctions, les impôts ne rendent pas forcément service au public, alors que la poste peut rendre service. Mais enfin, bon, c'est pas là-dessus, c'est finalement que je trouve ça, le débat intéressant. Moi, j'en reviendrai à ce qu'on a dit tout à l'heure, les fonctions régaliennes, ok, on les laisse de côté, mais parmi les fonctions stratégiques, je pense que là, il ne faut pas les lâcher. Et l'environnement fait partie dans les fonctions stratégiques, moi, je mettrais l'environnement, la santé, l'éducation, l'énergie, les ressources, toutes les ressources, y compris les ressources en eau, et la recherche. Alors, dans ces fonctions stratégiques, évidemment, il y a celles qui ne sont pas rentables et celles qui sont rentables. Économiquement. D'ailleurs, l'Europe appelle ça service d'intérêt économique général. Hein. Donc, eux, ils y voient la notion économie. On peut y voir la notion d'économie, mais au milieu, il y a celles qui ne seront jamais financées par des privés. L'environnement, par exemple, je vois mal des privés financés parce que ce n'est pas rentable économiquement. Et puis, ce qui est rentable. Alors, dans ces cas-là, je pense que, bon, l'État ne doit pas, disons, prendre tout ce qui n'est pas rentable est donné au privé, tout ce qui est rentable. Je pense que l'État doit avoir une vision. On revenait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une évasion de l'État? L'État doit avoir une vision à long terme. Dans le temps, il y avait des plans, le cinquième plan, le sixième plan, etc. Il y avait des plans qui donnaient une direction pour l'État. Aujourd'hui, on ne la voit pas, cette direction. Mais lorsqu'on est écologique, on la voit très bien, cette direction. La direction, elle est que dans 30 ans, il n'y a plus de pétrole, dans 40 ans, il n'y a pratiquement plus de ressources énergétiques, et ainsi de suite. Et l'eau va manquer. Donc si on regarde bien ça d'un point de vue écologique, on sait très bien quelle direction il faut avoir. Ça veut dire qu'il faut un plan pour économiser les ressources, toutes les ressources, les minerais. Hein, je veux dire, moi, je lisais un livre sur le Chabat parce que j'ai travaillé au Katanga, je travaillais au Zaïre et tout. En gros, on suppose que dans 5 ans, les sociétés multinationales américaines qui aujourd'hui œuvrent là-bas auront tout liquidé. Alors on va se retrouver dans la pénurie. Donc,
C'est-à-dire tout liquider?
Le niobium, le cuivre, tout ce qui reste, ils vont tranquillement le marchandiser, comme on dit, en quelques années, à moins de 5 ans. Ça veut dire que dans 5
ans, les ressources seront épuisées.
Voilà, épuisées. Bon, et ça peut même aller très vite. Donc je pense qu'un État doit se préoccuper de la stratégie à long terme.
Du long terme.
Comment changer d'énergie quand il n'y aura plus de pétrole? Il faut peut-être s'en occuper aujourd'hui, non pas dans 20 ans. Et ainsi de suite. Donc moi je pense que l'État doit garder ses fonctions à long terme en disant voilà dans 10-20 ans ce qui peut se passer, voilà comment je dois réagir et quels services je vais essayer de garder pour mettre en œuvre cette politique. Je pense que tout le débat il est là, il n'est pas privé, moins privé ou plus privé.
Monsieur Miron, pour l'UMP.
Oui, entre service public et service au public, je crois que un point intéressant, je trouve, quand on est acteur public et qu'on fait de la politique, comme ce qui est mon cas, la plupart le cas de tous les quatre qui sommes ici, avec des mandats ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça change lundi matin pour les gens, les décisions qu'on prend, au-delà des discours, au-delà des grandes envolées lyriques, au-delà des grandes orientations nationales, internationales. Concrètement, lundi matin, ça change quoi? Service au public, pour moi, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'aux impôts, par exemple, je pourrais y aller de 8h30 jusqu'à peut-être 19h ou 19h30, et si j'ai une plage horaire de travail qui ne me permet pas d'arriver avant 16h, là, écoutez, pour une fois, ça sera ouvert et je pourrai y aller. Pareil au niveau des crèches. Au niveau des crèches, et les mères de famille qui nous écoutent savent bien la difficulté. Moi, je ne trouve pas normal, compte tenu des plages horaires de travail qu'il y a de la part d'ensemble de la population, et bien que les crèches ne soient pas ouvertes plus tôt et beaucoup plus tard. Autre idée également, la poste. Vous allez à la poste et aujourd'hui, même s'ils ont fait des efforts grâce certainement à une concurrence qui arrive de façon un peu forte, eh bien, quand vous allez à la poste, aujourd'hui, il y a des guichets ouverts un petit peu plus tard, il y a des organisations qui se font. Pareil à la Sécu. À un moment donné, il faut aussi être conscient et arrêter les histoires de langue de bois sur concrètement comment ça se passe quand monsieur X ou madame Y qui bosse normalement avec des horaires normaux et qui a un travail qui n'est pas de telle ou telle prérogative avec tel ou tel avantage pouvant quitter son travail quand il le souhaite, eh bien, se retrouve dans une difficulté pour aller faire un certain nombre de documents. Alors, on va me raconter, il y a Internet, il y a ceci, il y a cela. Oui, bien sûr. Sauf qu'on aime bien encore aller au guichet et rencontrer les gens, et tant mieux, on est en Méditerranée, on se parle.
Marie-Françoise Palot.
On parle des impôts, alors justement, parlons-en. Vous avez parlé des fonctions régaliennes, la collecte de l'impôt fait partie des fonctions régaliennes. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de progressivement, petit à petit, alors par le biais d'Internet et par le biais d'autres façons d'ailleurs, la mensualisation, etc., etc., de vouloir mettre l'impôt qui est un impôt progressif vis-à-vis de la population, c'est-à-dire par tranche d'impôts. Et d'ailleurs, là, vous avez vu que déjà, on a élargi les tranches. On n'en a plus que 5. Mais au lieu de l'avoir comme ça, donc le calcul de l'impôt, on va l'avoir directement proportionnel au salaire et à la source. C'est indéniable qu'on se dirige vers ça. Et là, effectivement, autant comme c'était utile d'avoir un guichet au trésor public pour aller effectivement ou se plaindre ou essayer d'avoir des modalités pour payer les impôts quand vous êtes en grande difficulté, et Dieu sait si on en rencontre en ce moment à nos guichets des gens en grande difficulté, en détresse même. C'est pour ça que le développement des missions de service public serait peut-être aussi facteur de cohésion sociale. Et bien là, maintenant, effectivement, vous n'aurez plus besoin de vous plaindre, puisque ça sera un impôt qui sera retenu sur la base de votre salaire. C'est dans les tablettes, c'est dans les cartables de certains tenants du pouvoir en ce moment. Donc effectivement, moi je pense qu'il doit y avoir continuité du service public, et d'ailleurs pour tout, y compris pour le territoire, continuité territoriale du service public, c'est très important. On l'a vu avec les luttes de la SNCM dernièrement, mais je crois que c'est aussi important par rapport justement à la population que nous avons. Par exemple, je prends Marseille, puisque je suis conseillère municipale, on a un quart de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens-là, bien entendu, ne payent pas d'impôts. Mais ces gens-là ont peut-être besoin d'autres services publics. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a moins de services publics, eh bien, vous avez une foison terrible d'associations qui se créent. D'associations pour essayer de pallier, justement, aux carences du service public. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on peut continuer comme ça?
Monsieur Gross?
Moi, je voudrais reprendre, justement, donc, ce que vient de dire mon collègue donc, de l'UMP. Donc, on assiste à une déréglementation totale. Soit. Mais alors, il y a manque de personnel, le pouvoir d'achat donc il suit pas, ce qui veut dire que les gens lorsqu'ils arrivent donc à la poste, entre parenthèses on parle de la poste, donc c'est une queue à plus en finir. Je veux dire donc comme a dit ma consoeur donc du Parti communiste, Marseille est une ville, il y a quand même un quart de la population, hein, si donc je reprends donc le chiffre, un quart de la population qui est dans une situation précaire. Donc est-ce qu'on veut faire une fonction un service public donc pour les riches et un service public pour les pauvres? Là, je crois qu'à un moment, il va falloir quand même que le gouvernement qui est en place nous dise vraiment ce qu'il veut faire. Je veux dire, soit un service public, je répète, pour les pauvres et un service public pour les riches. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce système? Donc c'est simple ce que je dis. Mais donc il faut qu'on nous l'explique parce qu'à la limite, je crois qu'on bafoue donc, les citoyens dans leur, je veux dire, dans leur, en somme, dans leur façon de vivre.
Monsieur Villeneuve.
Oui, moi je pense que ça vient aussi peut-être des confusions qui existent. C'est qu'un service public, à un certain moment, et on lui dit « vous devez être rentable ». Alors évidemment, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va s'adjoindre des services rentables. Je prends le cas de la Poste, puisqu'on parle de la Poste. Ben, la Poste, au départ, c'était la distribution de courriers, c'était les télécommunications. Bon, et puis, il était les télégrammes PTT, Poste, télégramme. Et puis, on fait de la banque, et puis on fait de la caisse d'épargne, et puis on fait un peu ceci. Et puis, on fait de la gestion d'argent, et puis on fait des guichets. Et puis finalement, pour devenir rentable, on fait beaucoup de services. Alors, évidemment, comme on le sait avec, je dirais presque, un nombre de fonctionnaires constants, eh ben, les queues s'allongent, parce que un fonctionnaire qui devait simplement s'occuper d'envoyer du courrier ou de postes restants et autres, ben, il va s'occuper d'un tas de fonctions. Et évidemment, il y a plus de... À ce moment-là, il faudrait peut-être dédoubler les services. Je prends un autre exemple qui me paraît assez symptomatique. C'était le cas de Elf dans le temps, Total maintenant. C'était une compagnie d'État. Et puis, pour faire de l'argent, elle a acheté des services pharmaceutiques, elle a acheté des nouilles, enfin, la fabrication des nouilles, ainsi de suite. Je veux dire, à partir de là, c'est une dérive complète du service de l'État. La fonction qui était à l'origine garantir de l'énergie pour la France pour fonctionner est devenue faire du fric à tout prix et on l'a diversifié. Alors après, il ne faut pas s'étonner que tout d'un coup, on se pose des questions.
Monsieur Miron, pourquoi est-ce qu'il a fallu privatiser France Télécom, La Poste ? Pourquoi est-ce qu'il faut privatiser aujourd'hui GDF ?
France Télécom, avec les investissements qu'ils avaient faits, il valait mieux les privatiser. Parce que déjà qu'il a fallu rembourser un certain nombre de choses, aujourd'hui, tant mieux, France Télécom remonte la pente et je le souhaite pour les actionnaires de France Télécom, redevient rentable, bien sûr pour tous les salariés également de France Télécom qui sont actionnaires aussi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu privatiser ? À un moment donné, écoutez, soit on veut vivre dans notre quartier, dans notre bulle, dans notre ville et surtout pas sortir de là, soit on essaie de voir le monde à l'échelle territoriale qui est la nôtre aujourd'hui. Alors il y a des échelles pertinentes qui sont la rue devant chez moi, il y a des échelles pertinentes qui sont ma ville. Il y a des échelles pertinentes qui sont ma région, mon département, enfin bref. Et puis dans ce cas-là, l'échelle pertinente, c'est le niveau européen. Donc avec une échelle pertinente au niveau européen, eh bien, on a besoin face au continent asiatique, face à la montée en puissance économique de l'Inde, de l'Amérique du Sud, enfin bref, également aussi des États-Unis, tout le continent nord-américain, on a besoin de peser. Et à un moment donné, pour peser, bien, il faut qu'on ait une structure qui soit suffisamment large et suffisamment à l'échelle du territoire pertinent, donc de l'Europe. Je vais vous prendre un exemple très précis, la sidérurgie Arcelor. Moi, ça m'a fait mourir de rire il y a quelques années. Enfin, mourir de rire, c'est bien difficile de dire ça. Mais bon, en tout cas, je faisais partie des gens qui étaient favorables à la privatisation. Ah, que n'a-t-on pas entendu de l'ensemble des partis de gauche, de l'ensemble des syndicats de gauche, sur il ne fallait pas toucher à cet outil de travail extraordinaire, nécessaire à la nation et absolument à garder dans le giron étatique. D'accord ? On a vendu, d'accord, on a organisé les choses, on a fait des accords avec les Espagnols. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, le numéro 1 indien veut racheter Arcelor, qui est très rentable. Les salariés qui y sont bien contents d'y être et gagnent bien leur vie. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Donc, soyons un peu sérieux, il y a des fonctions régaliennes. Il faut éviter d'y toucher sur le principe... sur le principe de l'intérêt général et du fonctionnement géré, bien sûr, pour garder cet intérêt général par une puissance d'État, bien évidemment. Puis à côté, il y a un certain nombre de services, de choses qui peuvent être décentralisées, déconcentrées, également privatisées, également aussi mis sous délégation de services publics. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, il y a un certain nombre de communes, y compris de gauche, et des régions et des départements qui ne se gênent pas pour donner des délégations de services publics. Et ils ont raison, quel que soit leur bord politique, pour donner des délégations de services publics dans des fonctions qui ne sont pas les leurs. Et ça me semble tout à fait normal et naturel. Simplement, il faut aussi dire les choses, aller jusqu'au bout. Vous savez, les syndicats, qui en France représentent une petite force, et aussi bien les syndicats de salariés que les syndicats patronaux, qu'on soit clair là-dessus, qui représente une petite force et un gros pouvoir.
On a l'impression que certains sont plus écoutés que
d'autres.
Et
un gros pouvoir, oui, bien sûr. Et un gros pouvoir de nuisance, surtout, les uns et les autres. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils défendent tous des chapelles. Enfin, il faut être clair, je veux dire, à un moment donné, où est-ce qu'on fait son fonds de commerce ? Aujourd'hui, les syndicats, la plupart, font leur fonds de ce commerce dans le domaine des transports, dans le domaine de la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Ça aussi, il faut le dire, ça aussi, il faut dire les choses. Et une fois qu'on dit les choses, après, on peut discuter plus librement.
Monsieur Gross, vous voulez réagir sur pourquoi il fallait privatiser la Poste ?
Enfin, moi, je ne voudrais pas revenir sur le monde syndicaliste, là, donc, justement, Simplement, je voudrais donc signalé, je pense que tout le monde le sait, mais enfin pour les auditeurs. Lorsque France Télécom a été donc privatisé, le démantèlement de France Télécom, je crois que c'était un dénommé qui était directeur, monsieur Breton, je crois. Mm-hmm. Et je crois qu'actuellement, si mes souvenirs sont exacts, donc je crois que c'est d'actualité, c'est le ministre des Finances.
Oui.
Donc j'en aurais terminé. Ma crainte, c'est qu'avec Monsieur Breton, donc on va carrément sur, je veux dire, une libération donc totale donc du service public. Donc c'est en somme dans sa doctrine. Donc on a vu à travers France Télécom. Puis alors je voudrais revenir simplement lorsque vous parlez du monde syndicaliste. C'est vrai que le monde syndicaliste se situe les 7%. Vous voyez, je dis le chiffre exactement ce que représente donc le monde syndicaliste. Le 7% actuellement en France. Mais le pourquoi? Lorsqu'on a privatisé, donc vous avez parlé donc de la sidérurgie, on peut reparler aussi donc d'automobile. Donc toutes ces entreprises ont été privatisées donc automatiquement. Donc il y a moins de syndicalistes parce que comment actuellement quelqu'un peut se définir dans le monde syndicaliste dans des entreprises privées. Je pose une question simple là. Donc lorsqu'une entreprise, donc on nous parle avec des contrats donc très très précaires, je ne vais pas rentrer actuellement dans les contrats qu'on a actuels, là comment vous voulez que le monde syndicaliste donc puisse se développer ?
Marie-Françoise Palois, vous voulez intervenir ?
Je voudrais prendre un exemple, celui de la SNCF en matière de transport. On parle de services publics rentables. Moi je ne suis pas contre, au contraire, à partir du moment où moi je veux savoir ce qu'on va faire de mon argent, puisque service public c'est mon argent, ce qu'on va faire de mon argent. Au niveau de la SNCF, l'argent était là, ce qu'on faisait, le bénéfice, je ne parle pas de profit, hein, le bénéfice que la SNCF faisait, elle était là pour réinjecter dans le matériel, dans l'entretien, mais aussi ça permettait que les lignes rentables soient au bénéfice, soient pour les lignes non rentables.
Ce qu'on appelle la péréquation tarifaire qui existe pour EDF, pour la Poste.
Exactement. Donc ça, c'est très important. Parce que la petite ville, la moyenne ville qui avait sa gare, eh bien, elle pouvait avoir un transport. Vous avez vu toutes les luttes qui se sont menées et tout. Bon, moi, je vous dirais très franchement, je préfère me battre pour l'intérêt général de la population que pour mon propre intérêt. Et là-dessus, je dois dire qu'il y a des choses à faire. Parce que quand on parle à un moment donné que les services publics, oui, c'est pas rentable, est-ce que vous pensez réellement qu'un service public qui est en passe d'être privatisé et où on voit là, d'un coup, les vautours arriver pour s'accaparer, pour mettre nos PA sur un service public ou quoi, vous pensez réellement que c'est comme ça, c'est pour faire joli? C'est parce qu'ils savent très bien que les services publics, une fois qu'ils sont privatisés, peuvent être rentables parce qu'on y met tous les ingrédients du privé. Et c'est-à-dire, bon, rentabilité financière à tout craint. Mais est-ce que c'est cela dont la population a besoin? Moi, je reviens aux besoins sociaux. Je reviens au premier fondement, les fondamentaux du service public. Est-ce que c'est réellement de ça qu'ont besoin la population? Ou est-ce que simplement c'est le besoin de certains actionnaires d'avoir plus de propriété à eux? Simplement, et pas la population.
Voilà, ce qu'on craint, c'est que les processus de privatisation, en fait, profitent beaucoup plus aux actionnaires qu'aux usagers ou qu'aux clients. Et on dit souvent aussi, un des arguments les plus forts avancés par les adversaires des privatisations, des délégations de services publics, etc., c'est que le privé fonctionne sur des logiques à court terme. Il n'a pas de souci de l'intérêt général, et l'intérêt général nécessite du long terme. Quand on entend parler de DF, d'EDF, de démantèlement de centrales nucléaires ou de politique d'énergie, etc. Comme disait M. Charles Villeneuve tout à l'heure, sont des domaines stratégiques, comme M. Michel Villeneuve, comme l'eau, etc. Ça nécessite des visions à long terme. Est-ce que pour vous, le privé peut s'occuper avec tout ce qu'on connaît du privé, c'est-à-dire une financiarisation du capitalisme, etc., peut s'occuper d'un intérêt à long terme, peut produire des investissements, peut s'occuper de l'intérêt général.
À Marseille, on a la meilleure qualité d'eau quasiment en France.
C'est Veolia qui s'en occupe,
oui,
c'est ça.
La société des eaux est à 50% actionnaire Veolia et 50% le concurrent de Veolia. Donc, ils ont des contrats dans le monde entier. Ils vendent leur savoir-faire dans le monde entier. Donc, un exemple là bien précis que sur la qualité de l'eau, sur donc des problématiques de développement durable et qui touchent à l'intérêt général de façon très très large, puisque l'eau c'est vital pour nous. Comme l'air, et bien là on s'aperçoit qu'il y a une qualité irréprochable. Je ne voudrais pas faire le reproche à la mairie d'Aubagne ou à la mairie de Gardanne, d'accord, d'avoir une vision à court terme dans le cadre de la sous-traitance qu'ils ont eue pour les transports publics de passagers, pour prendre les deux qui sont là. Je ne voudrais pas avoir un peu d'agressivité vis-à-vis de mes collègues du Conseil général de la majorité sociale-communiste et qui ont mis en œuvre, et j'ai voté favorablement, donc vous voyez, qui ont mis en œuvre des délégations de services publics, que ce soit, pour prendre un exemple bien marginal, dans la cafétéria, que ce soit pour le transport des personnes handicapées ou que ce soit pour le transport des scolaires. Donc vous voyez, là aussi, diversité et chacun y trouve son compte. Je crois, il faut pas qu'on confonde rentabilité. Il n'y a pas d'histoire de rentabilité. Il y a des choses qui doivent être faites et il y a des choses par l'État et par la puissance publique et d'autres par autre chose. Tout à l'heure, Marie-Françoise,
il y a quand même.
Je vais terminer sur mon idée aussi.
Des contre-exemples qui existent au niveau de la gestion de l'eau. Il y a des communes qui remettent ça en régime municipal. Au niveau de l'électricité, il y a des exemples fameux en Californie, en Italie, en Allemagne, de gestion par le privé qui a été catastrophique. Donc, c'était juste pour établir l'équilibre entre les...
Bien sûr. Ouais. Mais je crois qu'il faut en tenir compte de tout ça. Comme les transports en Angleterre. Bien sûr qu'il y a eu une gestion privée des transports en Angleterre qui a été calamiteuse, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut regarder chez les autres ce qui se passe avant de faire n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un cadre juridique adapté avec un cahier des charges adapté pour que les entreprises qui répondent. Et puis aussi, soyons sérieux, quoi, je veux dire, il faut que les élus de la République, qu'ils soient au niveau national ou au niveau local, prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, dans le cadre des lois de décentralisation, qui ont été initiées d'abord par Gaston Defferre, ensuite par Jean-Pierre Raffarin, où nous avons entendu la gauche crier au scandale et au reste, bien évidemment, il faut faire des choix. Moi, je dis qu'être élu, c'est faire des choix, les assumer, surtout les revendiquer. Aujourd'hui, la fonction de chemin de fer... de transport public de passagers à l'échelle régionale est confié par le conseil régional. Ben, que les élus régionaux prennent leurs responsabilités. Et quand ils votent un budget pour du sport, pour de la culture, pour autre chose, qui sont des choses très très intéressantes et fantastiques, simplement qu'ils sachent qu'avant ça, pour eux, dans leur fonction, eh bien, d'un conseil régional, c'est les transports à prendre en compte. Et qu'ils les assument jusqu'au bout.
Monsieur Villeneuve.
Oui, moi je pense que on en revient toujours à la question fondamentale, qui est-ce que doit prendre l'État, qu'est-ce que ne doit pas prendre l'État. C'est là où on a des problèmes. À travers un exemple, tout à l'heure on a cité l'exemple des chemins de fer, qui est tout à fait vrai. Hein. C'est vrai que les bénéfices pouvaient permettre un réinvestissement. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de la santé. La santé, le médicament. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés privées, pharmaceutiques, elles font du médicament, essentiellement, elles font de la recherche où? Dans la recherche sur les traitements qui sont longs. Par exemple, vous êtes diabétique, toute votre vie, pendant 30 ans, vous allez utiliser des médicaments pour le diabète. C'est très rentable. Par contre, sur l'antibiotique, qui n'arrive que lorsque vous avez la grippe, eh bien, il n'y a aucun service privé, aucune pharmacie privée qui fait des recherches là-dessus. Aujourd'hui, on est à court d'antibiotiques, parce que plus personne ne l'a fait. C'est là où l'État devrait intervenir. C'est là où l'État, justement, devrait avoir ses propres chercheurs pour dire « ce n'est pas rentable, donc je m'en occupe, parce que si demain il y a une grippe spécifique, à part la grippe aviaire, mais une autre grippe qu'on ne connaît pas, eh bien, on va se trouver à court d'antibiotiques et il va y avoir une hécatombe. » Donc là, l'État doit prévoir en disant, je vais m'en occuper. Mais évidemment, l'État va dire, moi, j'ai plus d'argent, puisque le privé, lui, il fait de l'argent, bien sûr, mais les bénéfices qu'il fait, il les réinvestit ailleurs. Je ne sais pas, moi, dans de l'acier, par exemple, ou autre. Et donc l'État, après, n'a plus d'argent. Donc c'est vrai que ça serait intéressant que l'État puisse avoir des entreprises à lui qui soient à la fois rentables et pas rentables pour lui permettre d'avoir d'un côté de l'argent qu'il peut réinvestir dans des domaines non rentables. Bon, mais c'est là, je dirais, où faut-il à ce moment-là faire comme la SNCF, à la condition que la SNCF, les entreprises privées ont eu tendance, malheureusement, et c'est ça un petit peu le problème, c'est que, je ne parle pas de la SNCF spécialement, mais je vois par exemple dans le domaine de l'énergie, ben, ils ont tendance, quand ils ont beaucoup d'argent, à ne pas le rendre à l'État. Parce que ça leur fait mal au cœur, alors ben, on va investir ailleurs, on va le garder, ils font tout un tas de systèmes, d'inventions, parce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs bénéfices repartir au sein de l'État. Et je pense que c'est là où ça devient grave. Évidemment, cet État va nous dire un jour, mais moi je n'ai plus d'argent pour assumer toutes les fonctions que je dois assumer. Donc je vais déléguer. Alors, il y a peut-être une solution, je reviens au domaine de la santé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat public-privé. Alors, public-privé, c'est quoi ? Je prends l'exemple de l'Angleterre tout à l'heure, on en a parlé, l'exemple les chemins de fer privatisés par Mme Thatcher ont amené une gestion déplorable. Des accidents à répétition, enfin, tout ça ne marchait plus. Donc, qu'a fait l'État anglais, il y a 18 mois, il a contractualisé en disant, voilà, je sous-traite à des sociétés pour la remise en ordre, et lorsque vous aurez remis en ordre le système, je donnerai ma part de l'investissement à la condition, et vous aurez la gestion, donc vous aurez la gestion du système sous un cahier de charge, et moi, je vous paierai la part d'investissement que vous aurez fait pour le remettre à niveau. Ça, c'est une gestion privée, publique, qui peut se voir parce que c'est sur du court terme. Et donc là, je pense que c'est peut-être une solution à établir qui ne soit ni étatique ni privatisée.
Marie-Françoise Palois pour le Parti communiste, est-ce que vous croyez, vous, à une complémentarité publique-privée pour la gestion des services publics ?
Et la complémentarité, elle y est déjà. Hein. Puisque quand vous êtes élu, vous êtes dans ces institutions, vous avez quand même pour chaque grandes infrastructures que nous faisons, ce qu'on appelle l'appel d'offres. Et donc, on fait appel à des sociétés privées, des entreprises pour construire, enfin, des architectes, etc., etc. Mais, je rajoute de suite, c'est mis quand même sous le contrôle à la fois des élus, bien entendu, mais aussi de la légalité, c'est-à-dire du préfet, et de la régularité, c'est-à-dire du comptable public. Il y a donc, c'est contrôlé. Après ça, vous avez aussi ce qu'on appelle la délégation, qui dit bien ce qu'il veut dire. On délègue un service public au privé. Ça, c'est différent. C'est une deuxième chose. Et enfin, vous avez le partenariat public-privé, c'est le PPP, comme on appelle dans notre jargon. Le PPP, c'est quelque chose qui se met en place très difficilement et c'est très long. Et c'est vraiment là la mise en concurrence directe avec ce qu'on peut appeler, comme on le voit dans les enchères, hein, voilà, vous êtes trois, donc allez, on y va et tout. Et il n'y a plus, si vous voulez, le côté qualité, ce qu'on retrouve dans la commission des marchés publics. Dans la commission des marchés publics, qui est régie par le code des marchés publics, vous avez à la fois... bien entendu le prix, mais vous avez surtout la qualité, vous avez un cahier des charges, donc on demande une qualité, hein, et on contrôle. Or là, le partenariat public-privé, c'est vraiment, alors d'abord, premièrement, c'est très très long pour l'instant, parce que bon, il y a tout un processus très très compliqué, c'est un peu le triangle entre le soumissionnaire, entre l'institution et tout, mais en même temps aussi, c'est vraiment la mise en concurrence au point final. Alors que sur le code des marchés publics, la mise en concurrence, elle n'y est pas, puisque normalement, l'entreprise qui est candidate ne sait pas exactement combien l'entreprise concurrente peut donner de son produit, etc., etc., sur le marché. Voilà. Donc, je pense qu'il faut absolument, pour les institutions, et parce que nous représentons les administrés, les gens, nous devons avoir des garanties. dans toute forme de partenariat, que ce soit avec le privé ou même avec d'autres institutions, pourquoi pas, il faut quelque chose qui garantisse. Alors là, c'est un peu mes fonctions aussi au ministère des Finances, de comptable public, qui revient à la surface, c'est que nous avons intérêt, lors de la République, on a mis en place ces formes de fonctionnaires pour justement garantir toute intégrité et honnêteté, c'est-à-dire indépendant du maire d'à côté qui veut inciter à dire « oh ben soyez sympa », etc. Non, il y a des règles, ces règles républicaines de la séparation de l'ordonnateur et du comptable qui sont là et qui justement garantissent aux citoyens que bon, ben, l'argent public est géré par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Et voilà, c'est surtout ça. Et moi, je pense que le marché public est d'une importance capitale où on peut fonctionner avec des entreprises privées et on fonctionne et on travaille avec des entreprises privées, hein, mais dans un cadre régi par la loi. Et non pas quelque chose où, bon, ben voilà, alors voilà, vous êtes trois entreprises, ben dites-nous, le moins de 10 ans sera celui qu'on prendra, quoi, en gros. Hein. C'est pas tout à fait ça, hein, je vais vite, hein, j'essaie d'expliquer aux auditeurs, mais soyons clairs, ça, c'est la porte ouverte à des malversations que malheureusement on voit déjà, hein, qu'on découvre. Alors soyons, s'il vous plaît, quoi, on va pas le produire, nous, hein.
Oui à la légalité, oui à ce qui se fait dans les règles, bien évidemment, tout doit se faire dans les règles, dans la légalité, en transparence, et que chacun puisse être informé de ce qui se fait. C'est le cas dans tous les marchés publics qui sont passés, dans toutes les DSP, et demain, dans tous les partenariats publics-privés, bien évidemment. L'électeur citoyen qui paye des impôts a le droit de savoir où va son argent et doit avoir la garantie de l'État, cette fois, bien évidemment, ou de l'institution, de la puissance publique, pas forcément l'État d'ailleurs, de l'institution puissance publique qui, au bout du bout, est ici représentée par le préfet au niveau de l'État, bien sûr, eh bien, d'avoir la garantie que l'argent est utilisé convenablement en fonction des lois et des règles en vigueur.
Parce que, Monsieur Villeneuve, juste pour revenir à ce qu'on disait, le PPP, là, c'est vrai qu'il y a le pour et le contre. Hein. Le pour, c'est qu'effectivement, l'État peut dire bah, « Écoutez, la prestation que vous m'avez donnée est mauvaise, donc je ne vous paye pas ce que je vous avais promis. » Alors, évidemment, bon, d'un autre côté, si la prestation... Par exemple, je prends un exemple pour illustrer la rénovation des hôpitaux. Hein, on peut dire, voilà, pendant 10 ans, on va signer un contrat à État avec des entreprises pour rénover les hôpitaux, des banques, hein, ça peut être n'importe qui, ça peut être pas des organismes de... Qui vont s'occuper de rénover et qui ensuite auront en échange la gestion des hôpitaux pour un certain nombre de temps. Bon, je pense que l'avantage, par contre, l'avantage, je dirais, qu'il peut y avoir, c'est que l'État n'est pas obligé d'engager à vie, comme on disait, des fonctionnaires pendant 60 ans pour rénover des hôpitaux sur une opération qui va durer 10 ans. Ça veut dire qu'après, il va avoir des fonctionnaires qui ne seront plus adaptés à cette fonction et qu'il ne pourra pas reverser ailleurs. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est l'avantage de donner au privé. Bon, mais je pense que maintenant, on a une donne nouvelle, je veux dire, qu'on devrait introduire dans ce débat aujourd'hui, c'est qu'on va vers une Europe, qu'on le veuille ou non, même le nom à la Constitution n'arrêtera pas l'Europe, et on va arriver à l'Europe. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'y prend mal. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des regroupements par la base des sociétés, par exemple, Alcatel va s'associer aux géants allemands, etc., pour essayer d'arriver à un outil qui soit européen. Moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution. La bonne solution, c'est qu'il faudra, de toute façon, à terme, je ne sais pas, dans 10 ou 20 ans, un service public européen. Il faudra une armée européenne, il faudra une justice européenne, il faudra des transports européens, il faudra des télécommunications européennes. Un exemple pratique, aujourd'hui, c'est le GPS, enfin, ce qu'on appelait le GPS qui est américain, l'équivalent français, Galileo. Français, je dis des bêtises, c'est européen, enfin, beaucoup français. Galileo, c'est-à-dire que ça vous donne votre position et la position que vous avez sur votre planète, elle est absolument nécessaire pour tout le monde. Vous voulez lancer un missile quelque part, si vous n'avez pas cette précision-là, il atterrira à 200 km à côté. Donc, si ce monopole est uniquement américain sur la planète, c'est arrivé parce que j'ai fait un travail justement de gestion là-dessus. J'ai fait une opération GPS sur l'Asie du Sud-Est et je connais bien le problème. Les Américains nous dégradaient complètement les mesures et nous étions obligés de les regrader pour arriver à la précision du centimètre, chose qu'on ne pouvait pas avoir si on n'avait pas... Bon, donc si l'Europe n'a pas cet outil-là, eh bien, à la veille d'un conflit avec les États-Unis, par exemple, ou avec la Chine, n'importe quoi, vous retrouvez, vous oubliez d'un outil, vous ne pouvez plus manœuvrer, vous ne pouvez pas faire de guerre, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas répliquer puisque vous n'avez plus l'outil nécessaire pour répliquer. Donc là, c'est des fonctions que l'État, l'Europe doit assumer à son niveau à elle. Je pense que c'est un peu la transition vers cette Europe-là dont je voudrais parler là.
Vous êtes un peu belliqueux. Oui. Voyez des missiles.
Oui, mais non, mais un conflit. Allez, disons, parlons de conflit général. Allez.
Bon, juste, on arrive là, près de la fin. Donc, peut-être sur cette question-là, et peut-être comment vous voyez, chacun d'entre vous, l'avenir des services publics en France et en Europe. Et peut-être dire un mot. Allez-y, Monsieur Gross, Parti Socialiste.
Enfin, moi, je voudrais répondre donc, à justement ce que je vois qu'on parle donc, de la place donc, du service public en Europe. Je crois que d'abord, il faut retirer donc, cette fameuse directive que je crois qu'il s'appelait Bolkestein. Parce que je crois que c'est une menace pour le modèle social européen. Oui, mais enfin, c'est certain, donc c'est fini. Mais, enfin, mais tout est fini en France et tout recommence toujours. C'est là le problème. C'est comme là, donc, on pourrait parler du CPE, c'est fini, mais enfin, ça reviendra dans notre biais. Moi, ce que je vois actuellement, cette politique ultralibérale menace la sécurité, la justice, l'enseignement dans son ensemble, la formation professionnelle, la santé, les retraites, les emplois, sans parler du pouvoir d'achat qui est devenu inexistant. Donc, et pour conclure, donc toutes les politiques de réglementation qui ont été mises en place en Europe ont toutes échoué dans tous les secteurs, mais confondus. Alors, je crois quand même que voilà, donc parce que on parlait donc de la place du service public dans l'Europe, donc je crois qu'il faut retirer cette directive de Bolkestein. C'est, je veux dire, donc une règle fondamentale. Je dis oui à une Europe sociale et non à une Europe ultra-libérale.
On va peut-être écouter Marie-Françoise Palois ou Monsieur Miron.
Honneur aux dames.
Honneur aux dames. Marie-Françoise Palois.
Tu te trompes pas, je suis la seule. Alors.
Ah, mais si elle avait deux, ça serait pareil. Elle pourrait parler avant moi, Marie-Françoise.
Non, moi je voudrais revenir déjà sur le financement.
Peut-être dire deux mots de Bolkestein, parce qu'il y a eu depuis.
Mais bon, vous faites partir par la porte quelque chose, ça revient par la fenêtre. Et il a dit, hein, CPE, etc., etc. Il y a des choses, ça, malheureusement, c'est voilà, l'affrontement, mais parce qu'il y a des choix. Il y a des choix. Nous, on fait le choix du service public, on fait le choix de l'intérêt général.
Mais alors, où cette directive
L'ultralibéralisme et le capitalisme fait le choix du fric, hein. C'est tout.
C'est-à-dire que la directive Bolkestein, pour l'instant, a été largement amendée, rectifiée, etc. Mm-hmm. etc. Donc, il n'en est plus question. Vous craignez seulement que ça revienne à un autre moment, par d'autres
formes.
La GCS, par exemple, au niveau de l'OMC, ce genre de choses comme ça.
Exactement. D'accord, ouais. Ok. Hein. Oui, moi je voudrais revenir au financement parce qu'on dit que ça coûte cher et comme ce sont nos impôts, tant qu'à faire qu'on sache certaines choses. Par exemple, en 2004, vous avez eu 50 milliards d'euros de fraude fiscale. Ça ne vous dit rien ça ? 50 milliards d'euros. Alors, moi je veux bien que les services publics coûtent cher. Mais déjà, si on donnait les moyens aux agents des ministères des Finances pour contrôler cette fraude fiscale, ça serait déjà pas mal. Bon, ensuite, toutes les mesures qui sont en ce moment sur la fiscalité ne concernent n'aide que les plus hauts salaires et les grandes fortunes. Moi, je dis à justice fiscale, c'est justice sociale. Donc voilà. Donc il y a des choses à faire et nous sommes, nous, au Parti communiste français, pour une réelle refonte de la fiscalité. Mais pour l'intérêt des contribuables, non pas pour l'intérêt d'autres. Hein, voilà. Déjà ça. Ensuite, sur les services publics. Moi, je suis pour des services publics. Enfin, moi, quand je parle, hein, c'est au nom du Parti communiste, bien entendu. Nous sommes pour des services publics européens, effectivement. Et pour des coopérations avec les autres services publics européens. Mais ça, vous savez, je vous dis, quand vous naviguez un petit peu hein, et que vous rencontrez des amis européens, ils vous disent tous, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir encore vos services publics. Ils nous envient. Et si on parle de services publics à la française, ce n'est pas pour rien. Hein. Ils nous envient. Alors, pour ça, eh bien, nous, on veut une rénovation. On est pour des renationalisations, effectivement. On est pour des renationalisations. Mais c'est normal, hein, parce que nous avons un certain idéal de notre société et qu'on veut la transformer, cette société, parce qu'on estime qu'elle est pourrie en ce moment. Donc, on veut la transformer. Et d'abord et avant tout, on va essayer de travailler à un véritable service public de l'emploi, c'est-à-dire pour une sécurité d'emploi et de formation tout au long de notre vie. Un véritable service public du logement. Vous savez que c'est la première revendication des gens, le logement, en ce moment, sur Marseille et ailleurs d'ailleurs. Hein. Bon, un véritable service public, alors là, c'est dans le cadre du financement justement de ce service public, un pôle public bancaire de crédit. Aujourd'hui, il y a, vous savez, il n'y a plus de banques publiques ou si peu que pas. Mais on est en train de nous enlever les dernières. La Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne. Ça y est, c'est en route, ça aussi. Donc nous, on veut un pôle public bancaire et de crédit pour que, justement, eh bien, on puisse financer ces services publics et qu'on puisse financer, par exemple, le logement social. Voilà. Je vous donne rapidement quelques grands axes, mais je crois que c'est surtout, avant tout, à travailler et à enrichir par le débat public.
D'accord. Et donc, nationaliser, ce n'est pas contradictoire avec fonctionner avec des opérateurs privés, par exemple?
Pas du tout. D'accord. À partir du moment où, je vous dis, un véritable contrôle citoyen.
Monsieur Miron?
Oui, juste deux mots sur Bolkestein. Les seuls à pas avoir voté la nouvelle directive qui a été vidée de son contenu, bien évidemment, et en ce qui me concerne, je suis plutôt favorable à la nouvelle mouture qu'à l'ancienne, eh bien, cette directive-là, les seuls qui n'ont pas voté, c'est les socialistes français. En Europe, tout le monde a voté, hein, dont acte. Alors, pour ce qui est des services publics, et les communistes aussi, bien sûr, français, comment je pourrais voir ça
Leur avenir.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très original, mais en tout cas, c'est ce que je crois vraiment. D'abord, au niveau national, une décentralisation importante et également aussi pour que l'échelle pertinente soit celle qui correspond à la réalité du terrain. Pendant les transports, ben aujourd'hui, c'est les conseils régionaux. On parlait de l'aide sociale, hein, à travers le RMI et d'autres choses. C'est les conseils généraux qui en ont la compétence, les routes. Au niveau européen, je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est énergie et pour tout ce qui est également... donc politique de sécurité au niveau national, vous voyez, bon, il y a des échelles de pertinence intéressantes. Ensuite, en tant que décentralisateur, en tout cas en ce qui me convient, donnons également aussi la possibilité, eh bien, à ces institutions, alors de sous-traiter par appel d'offres, par DSP, par ce qu'on veut, mais arrêtons de faire à la place des acteurs qui doivent faire. L'institution est là pour organiser les choses, pour que le service public soit rendu au public, mais pas pour le faire, forcément. Il y a des gens qui sont spécialisés pour le faire. Donc voilà, je rapidement dis sur une conclusion.
Monsieur Villeneuve.
Oui, juste, là, j'ai écouté Richard Miron, je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort d'un certain point. C'est vrai qu'il y a le niveau de pertinence. Hein. Il y a des choses qui devraient être faites au niveau local et pas forcément au niveau de Bruxelles. Mais de notre côté, il ne faudrait pas non plus que l'État se désengage de tout, à part arriver à la royauté où le roi se contentait de régner et ensuite il déléguait tout à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il ramassait le fric et puis ensuite, pour le reste, vous vous débrouillez sans moi. Donc il ne faudrait pas non plus en arriver là. Mais je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce qu'en réalité, on le voit, l'Europe va vers ce système-là, qui est en fait le système de l'OMC. Au-dessus de l'Europe, il y a l'OMC. Et donc l'Europe est obligée d'appliquer les directives de l'OMC. Et donc, conclusion, la directive Bolkestein, c'est juste une avant-garde, mais ça va revenir, et ça va revenir peut-être en pire. On va de toute façon vers ce système-là, qui est la libéralisation totale des services. Et je vois mal l'Europe aujourd'hui dire, non, attendez, nous on veut un autre modèle, le modèle français n'était pas si mauvais que ça, on veut un autre modèle, et on va demander au monde entier d'en prendre en compte. Or, même à l'intérieur de l'Europe, on n'arrivera pas à l'appliquer, parce qu'on a quand même les anglo-saxons qui sont très forts. Le nom à la Constitution européenne n'a été que, disons, à arrêter pour quelque temps cette vague anglo-saxonne, mais elle reprendra de plus belle juste après. Et cette vague anglo-saxonne, qui est en fait la même que celle de l'OMC, va nous diriger vers cette décentralisation totale qui fait qu'en fait l'Europe n'aura pas de vision stratégique, et c'est ce que je regrette fortement. Je pense que l'Europe aura besoin de services publics. Si on arrive, comme on l'a dit tout au long du débat, à bien distinguer ce qui est service public et ce qui peut être privatisé, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais si on mélange tout, on n'y arrivera pas et on laissera l'OMC faire le ménage. Voilà.
Bien, merci à tous les quatre. Je vous rappelle que c'était une émission spéciale imaginée dans le cadre de la résidence de Nicolas Frise dans le projet Grenouille. Une émission qui cherchait à entendre les différents points de vue des principaux partis politiques aujourd'hui en France sur cette question des services publics français et de leur avenir. Vous avez donc entendu Madame Marie-Françoise Palois qui représentait le PC, Monsieur Michel Villeneuve qui représentait Génération Écologie, Georges Grosse qui représentait le Parti Socialiste et Monsieur Richard Miron qui représentait l'UMP. Voilà.
faut arrêter la machine. Sinon... Allez,
vous allez l'entendre démarrer.
De la résidence de Nicolas Brie.